Fait que bonjour à ceux qui nous écoutent. C'est une occasion spéciale de tempête. Donc, le thème de ce mois-ci, qui devait être la formation, ne sera pas la formation, mais plutôt l'engagement, la consécration et l'idée de porter une vision, d'être un porteur de vision. Donc, je vais prier pour commencer, pour simplement remettre ce temps et les gens qui nous écoutent dans les mains du Seigneur. Seigneur, on sait que tu es là, Seigneur. On sait que tu es vivant et que tu es le seul créateur de toutes choses, Seigneur, et que tu es ici, Seigneur, avec nous, alors qu'on s'assemble en ton nom pour glorifier ton nom. Seigneur, on a loué, on a chanté des louanges. Et maintenant, Seigneur, on veut rendre un témoignage à ta parole. Seigneur, on veut aussi s'exhorter les uns les autres et entrer vraiment dans ta présence, Seigneur. Que tu puisses diriger chaque échange, chaque parole, et qu'on puisse vraiment discerner qu'est-ce que tu veux nous révéler dans ta Bible, Seigneur, ta parole écrite. Amen. Ouais. Ça fait que l'idée derrière le thème improvisé, c'est qu'il y a trois aspects qui sont un peu toutes la même chose. Mais j'ai commencé à gros puis rapetisser dans mon idée, là. C'est sûr que pour vous, ça peut ne pas être exactement ça, là. Mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer avec le concept d'engagement. Dans la parole de Dieu, on voit qu'on est amené à se convertir au Seigneur. Même avant Jésus-Christ, le peuple était amené à croire en Dieu, puis à faire de Dieu leur Dieu. On lisait tantôt dans Isaïe, puis je pense qu'il parlait aussi de Cyrus, là, le roi, puis comme quoi il allait être utilisé pour libérer, rebâtir Jérusalem. Là. Puis c'est ça. Donc on voit qu'il y a un thème d'engagement derrière le service de Dieu. Un service signifie... on fait quelque chose. Puis, comme un emploi, moi, je pensais tantôt, je me disais, bon, comment est-ce que je pourrais amener l'idée d'un engagement pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans notre réflexion? Bien, j'ai pensé à mon emploi. Tu sais, j'ai été engagé. Donc, à quelque part, il y a une partie que c'est mon employeur qui a dit, OK, on te prend. Tu sais? Mais j'ai passé une entrevue. Puis, quand on m'a dit « on veut te prendre », ben moi, il a fallu que je réponde. Puis, tu sais, j'ai fait des entrevues avant d'être engagé, là. Puis, il y en a un qui m'a rappelé, le premier. Puis, il m'a dit que oui, tu pourrais commencer ton travail avec nous. Tu sais, c'était après la fin de mes études en informatique. Puis il m'a dit, c'est vraiment un moment marquant dans ma vie, c'est pour ça que je le partage, là, puis je le réalise en le disant, c'est que j'avais dit à Dieu, puis là vous allez trouver ça spécial, j'avais dit à Dieu que la première opportunité, j'allais la prendre d'un sens. Puis, ouais, ça fait que là, j'avais comme dit ça dans ma tête, en tout cas dans mes prières, puis je priais pour avoir un travail. Puis finalement, ce monsieur-là me rappelle, puis il me dit, « OK, on te prendrait. » Mais ce qu'il me dit, c'est que, par contre, lui, il ne voulait pas quelqu'un qui allait passer juste un ou deux années avec lui. Il voulait quelqu'un qui s'engage à vie. Ouais, il m'a dit carrément, « On pourrait te faire une place à notre entreprise, mais moi, ce que je recherche, c'est des gens qui vont vouloir faire ça. Tu sais, avec moi. » Pour tout le temps, là. Pour lui, là, c'était vraiment... j'étais content. Ah, wow! Quelqu'un qui me rappelle pour faire quelque chose. Puis, il voulait être sûr que ce pourquoi j'appliquais, je m'engageais à le faire. Tu sais, moi, j'étais allé faire des entrevues un peu... lui qui n'a jamais fait d'entrevue. Puis, en informatique, c'est tellement large qu'on peut appliquer dans plein de postes. Puis j'avais été à cette entreprise-là qui était une entreprise qui répare des ordinateurs. puis qui est plus au service technique, là. Puis moi, ça, pourquoi j'avais étudié, c'était pour faire des sites Internet, donc la programmation. Puis le monsieur, dans l'entrevue, m'avait dit qu'il avait vu plein de gens aller aux études dans ce domaine-là et jamais travailler là-dedans, finalement. Donc, il me décourageait vraiment de faire ça. Puis il me disait, regarde, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ce que tu pourrais faire. Puis il me demandait au téléphone, c'est la réponse, est-ce que j'accepte ou je refuse l'emploi? Est-ce que je suis prêt à faire ça de toute ma vie? De la réparation d'ordinateur, alors que j'avais à cœur, dans mon cœur, de faire de la programmation. Donc, il fallait carrément que je change de vocation. Puis, je n'avais pas réalisé ça en faisant les applications. J'avais appliqué sur toutes sortes de postes divers. Puis, je me disais, s'il y en a un qui peut m'aider à travailler, je vais commencer là, tu sais. Puis, ouais. Mais, vous voyez, au moment où j'ai reçu cette offre-là, je n'étais pas prêt à donner toute ma vie à cette cause-là. J'aurais été prêt à travailler, puis peut-être même rester là toute ma vie, mais pas prendre cet engagement-là au départ. Moi, ce que je cherchais, c'était une petite job pour commencer à avoir de l'expérience puis voir si je vais continuer. Mais lui, ce qu'il me demandait au départ, c'est parce que lui, il fallait qu'il réorganise son entreprise en fonction de ça. Est-ce que tu veux donner ta vie? Là, je mets des mots dramatiques, mais c'était ça qu'il voulait dire. T'sais. Puis j'ai refusé. Parce que je croyais que ce n'était pas la première occasion que Dieu avait pour moi. Ce n'était pas celle-là qu'il avait pour moi. Puis c'est un peu... c'est pour ça que, en tout cas, dans la parole, on voit qu'il ne faut pas trop jurer. En tout cas, il faut faire attention avec nos paroles. Hein. Parce que nos paroles, à quelque part, anciennement, en tout cas, il reflète un engagement. Quand tu te prononces sur quelque chose, c'est comme si tu t'engages envers cette chose-là. Puis moi, je trouve ça malheureux, mais j'essaie de vivre ma vie en parlant de façon à être engagé de la même manière. Donc pour moi, une promesse, c'est simplement dire quelque chose. C'est ça. Puis je crois que c'est ce que la parole nous dit aussi par rapport à ce sujet-là. Bon, je n'ai pas fait une étude détaillée, mais l'idée même de la parole de Dieu, je lisais tantôt en essayant de me préparer tant que bien que mal, là, avec des versets, dans Ésaïe, que la parole que Dieu proclamait par son prophète Ésaïe était irrévocable. C'est la parole de Dieu. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein.
C'est souvent dit que Dieu est fidèle à ses promesses, mais on lit sûrement encore plus souvent que Dieu est fidèle à sa parole. Tu sais,
oui.
Ça revient au même, finalement.
C'est pour ça que je voulais essayer d'aborder le sujet pour vous donner une idée. Puis je pense que c'est un bon exemple quand même. Puis maintenant, en tant que chrétien, si on va voir l'appel de Christ sur notre vie. Je lisais tantôt Marc. Bon, j'ai essayé de lire tout le début de chacun des évangiles pour essayer de me trouver des versets. Puis, il y avait Marc, chapitre 1, verset 16. « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ouais. Fait que c'est assez spécial comment... en tout cas, dans le passage, ça semble être très rapide et très direct. Puis j'avais d'autres exemples que j'ai pensé aussi mentalement dans la Bible, d'engagement. Si on pense au prophète Élisée, lorsqu'il a été appelé par Élie, je crois qu'il a mis son manteau sur lui. C'est ça, hein?
Il l'a jeté dans les champs.
OK. Dans le champ où il travaillait. Oui. Puis on voit qu'il demande à Élie tout ce qu'il lui demande. C'est spécial. Là. C'est vraiment spécial. On voit aussi l'idée de vocation. Là. Mais Élisée dit qu'il demandait juste, tu sais, comme le temps de... est allé voir sa famille pour. Puis il a comme fait un sacrifice avec ses bœufs ou quelque chose comme ça. Puis là, il a donné toute sa vie pour être un prophète à la suite d'Élie.
Est-ce que tu veux la référence?
Ouais, ouais. Ouais. Un roi 19, 19. On peut aller le lire, ça va nous aider. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Donc, c'était une famille très riche, ou en tout cas, il était impliqué dans une grosse affaire. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Ouais. Donc, il y avait quelqu'un dans la salle qui avait tort. Puis. Non, mais merci pour. Non, ben là, ça, on va le discerner, mais on peut être de tour à tour à avoir tort. Ouais, un roi chapitre 19, verset 19. Et verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » C'est un peu comme moi, mon appel. Il fallait que j'y pense, là. OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que je m'engage? Qu'est-ce qui se passe? Après s'être éloigné d'Élie, il revint pour prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Donc, l'attelage, c'est fini, là. Il ne servira plus. Puis, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est, je crois, un exemple assez renversant d'engagement. Aussi inattendu, parce que je ne crois pas qu'il y avait eu un appel avant d'Élie qui disait « Je vais passer dans le coin, peut-être que... » Ouais, c'était plutôt un geste spécial. Puis même, Élisée a couru après Élie. Donc, moi, j'imagine un peu la scène, c'est peut-être pas vrai, là, mais comme Élie, il fait comme son chose dramatique, là, il jette son manteau sur lui, puis il continue son chemin un peu comme « là, 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 tout va bien, il se passera ce qui se passera ». Une confiance totale entre la volonté de Dieu et son accomplissement. Puis Élisée est obligé d'aller courir après pour lui dire « Hey, hey, tu veux embrasser mes parents? » Puis leur dire au revoir. Puis, ouais. Fait que c'est intéressant. Puis, l'autre exemple que j'ai lu tantôt, c'est les disciples. Tu sais, on voit, lui, il était un laboureur. Puis, les disciples étaient en train de pêcher. Puis là, ils changent complètement de fonction. Donc, c'est plus le même travail. Puis, je pense que le Seigneur, à travers notre vie, nous amène à des endroits spéciaux et aussi à faire des choses qui sont complètement nouvelles. Puis je pense qu'il faut avoir foi en lui pour accomplir sa volonté. Fait que c'est ça un peu que je voulais dire par rapport à l'engagement. Maintenant, l'engagement chrétien. Quand on se convertit à Christ, qui est un peu l'équivalent de ça, parce qu'on voit qu'il devient à son service, Élisée. Quel est cet engagement-là?
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne se donne aucun recours pour revenir chez lui. Tu sais, il a fait cuire ses bœufs, il a brûlé la terre.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas no way back. Là. Je ne sais pas si ça se dit en anglais. Mais
il a brûlé ses bateaux. Là.
Ouais. C'est ça. Les ponts sont coupés. Tu ne peux plus revenir en arrière.
Par en avant, il n'y a pas question de revenir en arrière.
Ouais.
C'est ça là, que je trouve le plus frappant.
Oui, c'est vrai.
C'est comme ça qu'on doit aborder la vie chrétienne. Pas avec un pied dans le monde et un pied dans la vie chrétienne.
Pourquoi seulement? Parce que notre nature humaine cherche des assises partout, en dehors de la foi. On va s'accrocher à des branches autour parce que c'est ce que notre nature humaine demande. Mais la foi, ça n'a rien à voir avec la nature humaine. Ça a rapport avec l'appel de Dieu. Et ça, ben, c'est un grand pas dans l'inconnu, un grand pas dans la peur aussi, la crainte, parce que toute ta nature graffine pour chercher la sécurité humaine. alors que le Seigneur t'invite à faire un pas dans l'inconnu. C'est toujours le même avec le Seigneur.
Ouais. Il y a quelque chose que je réfléchissais aussi tantôt. Bon, je peux pas dire que c'est extraordinaire parce que j'ai pas assez pensé, là. Mais il y avait l'idée du gage. Parce que engagement, c'est comme engage de.
Ouais.
Tu sais? Puis j'essaie de réfléchir dans la Bible quel moment où il y a un gage qui est donné. Bon, il y a une mauvaise, disons, un événement assez... mauvais, disons, qui se produit avec, je ne sais pas, c'est Jacob. C'est-tu Jacob? Non. Oui? C'est ça, Judas. Voilà. Judas qui donne son gage à ta mort. Puis ça, c'est comme une garantie qu'il va revenir pour payer sa dette. Puis, bon, c'est une mauvaise circonstance là, de prostitution, mais c'était un exemple de gage. Puis c'était très utilisé dans l'Ancien Testament, justement pour comme certifier, tu sais, un certificat, une garantie. Puis maintenant, j'ai l'impression que, je réfléchissais, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas extraordinaire mon idée, mais je me disais, le Saint-Esprit nous a été envoyé. On l'a reçu et il est le gage ou un peu le sceau qui nous garantit notre vie au ciel. Et ce gage-là est inviolable par quiconque. T'sais, dans le sens, il n'y a personne qui peut le briser par la puissance humaine ou démoniaque ou peu importe. Je trouvais que c'est une belle image qu'en s'engageant envers Christ, lui, il fait un pas de géant, un pas de Dieu pour nous, et il nous garantit que son engagement envers nous, par sa parole, hein, c'est comme ça, ben, il est irrévocable, certain, magnifique, merveilleux, puissant pour renverser les forteresses.
Il tirait un océan avec une lame de tes yeux. C'est ça. Dieu seulement, hein? C'est extraordinaire.
Ouais.
Je me souviens, je montais depuis jeunesse, puis j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Et j'étais absolument émerveillé, puis je pleurais. T'sais. Je disais, comment Seigneur, toi qui as créé tout cet univers extraordinaire, tu t'intéresses à une mouche, c'est la surface de l'univers, c'est quoi ça? Qui qu'on est, nous autres? C'est qui qu'on est? Il est impliqué dans nos vies. Il nous a sauvés à travers, je ne sais pas combien de milliards d'individus. Pourquoi il nous a choisis, nous autres? Pourquoi il parle à moi dans mon char, un petit voyage depuis jeunesse? Ça? J'en revenais pas, j'ai dit. J'étais émerveillé par la présence de Dieu. Je dis, comment Seigneur, toi qui as créé toutes choses, qui est immensément grand, immensément puissant, c'est d'importer un intérêt quelconque à un individu comme moi. J'en reviens à vous, puis c'est vraiment ça. La présence de Dieu est tellement incomparable. Et quoi que ce soit d'autre. Puis je pense que c'est ça qui nous amène à faire des pots, que notre nature ferait jamais. Ouais. Comment se laisser étreindre par un Dieu invisible? Comment donner notre vie à un Dieu qu'on ne voit pas?
On le sent. Ouais.
Si ce n'est pas par la puissance de Dieu, justement.
Oui, c'est par sa puissance. Puis c'est ça que je trouvais intéressant dans notre engagement envers Christ en tant que chrétien. C'est que lui, il fait pas mal tout le chemin. Puis, son engagement, tu sais, moi, je suis engagé, à une compagnie, un ministère, en tout cas, gouvernement. Puis, c'est ça, j'ai comme un devoir, une fidélité à aller, là. Tu sais, un certain temps, certains jours de la semaine. Oui, cinq jours. Mais bon, puis c'est ça. Mais Dieu, lui, son engagement envers nous est incroyable quand on y pense. Puis c'est là que j'amène aussi l'idée, c'est un peu le but là, de pourquoi aborder l'engagement. Si Dieu est tellement engagé envers nous, je répète la question que j'ai dit tantôt, quel est votre engagement envers Christ? Je le répète parce que je pense qu'on prend notre conversion, notre engagement envers Christ comme une chose banale du passé, puis qui ne reflète pas réellement, je crois, l'engagement que Dieu désire de nous. Ouais, c'est ça. Ça fait que je voulais juste pousser la... Tu sais, on peut peut-être en parler plus tantôt, mais je vais sauter à l'autre sujet, mais c'est ça l'idée de jusqu'où va notre engagement envers Christ. Qu'est-ce que ça symbolise?
C'est quoi la conversion?
C'est ça, se repentir, ce qui symbolise, ce qui veut dire changer de direction. Puis on le voit hein, dans l'histoire qu'on a Élie et Élisée, il s'en allait avec quelque part avec ses bœufs. Mais il a fallu qu'ils virent de bord, qu'ils partent à la course après Élie. Donc il a changé de direction, puis il a coupé les ponts comme on disait tantôt. Donc c'est des éléments importants à se rappeler, puis à faire un parallèle avec nous aujourd'hui, avec Christ.
Mais c'est toujours le même avec le Seigneur. Vous n'avez pas remarqué que tu pars dans un année, puis tu as l'impression d'être arrêté avec une corde pour changer complètement de direction. Une direction que tu n'avais pas prévue, une direction que tu n'avais pas imaginée, dans laquelle tu n'avais même pas composé. Autrement dit, c'est le même souvent. Hein? Tu es comme dans un élève, puis d'un coup, il y a comme un mur, tu frappes un mur, obligé de revirer le bord dans une direction que tu avais même pas.
C'est ça. Mais le Seigneur s'assure de notre engagement aussi. Un coup qu'il est donné, c'est volontairement et par amour.
Mais la seule question qui est bonne, moi je me souviens, j'ai un frère justement, un pasteur avec qui on est.
Oui.
Il m'a souvent dit des choses. À un moment donné, il m'a dit que j'étais religieux. Juste avant de faire un message. Il m'a dit un enfant. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dit, écoute, je peux aller n'importe où ailleurs, tu sais, je ne suis pas obligé d'endurer. Mais ce que l'Esprit disait à mon cœur, c'est, est-ce que ton frère, ou celui que j'ai établi comme pasteur, a manqué d'amour? Puis, c'est comme une discussion ouverte avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix de répondre à ce genre de discussion. Si tu ignores ça,
c'est pire.
C'est vraiment infernal.
Oui, c'est ça. C'est un peu comme Jonas.
Ouais. Okay.
Je réfléchissais à ça avec la tempête.
T'as pas le choix. Tu es obligé de répondre à l'Esprit qui te pose une question. C'est ça qui démarque un enfant de Dieu avec un chrétien ou un crétin. T'sais. Parce que quelqu'un qui marche selon ses impulsions, il n'est pas à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Il n'y a aucune transformation possible, aucun engagement non plus, parce qu'il est tourné vers ses choix qui sont charnels. La Bible dit qu'il ne peut même pas agir avec la fidélité de Dieu. Celui qui est charnel, il ne peut même pas répondre positivement à ce que l'Esprit lui propose. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il accepte même les réprimandes parce qu'ils sont pour l'emmener là où est-ce que Dieu veut qu'il soit.
Ouais.
Autrement dit, là, tu vas grandir en étant repris par ton Dieu châtie celui qui aime.
Ouais.
Il ne s'occupe pas de ceux qui ne châtient pas, là, ils n'auront aucun problème à rentrer dans la volonté de Dieu. Ils ne rentreront jamais. T'sais. Alors que celui qui est son enfant, il a le droit à sa correction.
C'est ça. C'est envers qui sommes-nous engagés? C'est Christ. Puis vous parliez de les chrétiens et les non-croyants. Ben, les non-croyants sont engagés envers le monde, volontairement ou involontairement, soumis par leurs pulsions. Mais les chrétiens, eux, sont engagés envers Christ. C'est ça que j'essayais de ramener, l'idée. Parce que de ce point de départ-là découle beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est ça, je vais passer à l'autre point. La consécration. Et je pense que c'est pas mal interrelié. Bon, je n'essaierai pas de définir les deux parce que j'y arriverai pas, parce que je ne suis pas assez connaissant. Mais consacrer, pour moi, ça me fait penser dédié à, mis à part pour une fonction quelconque. Donc, quand on est engagé envers Christ, je crois qu'il y a une consécration qui suit. Donc, on est comme mis à part, scellé pour le service de Dieu. Ouais, sanctifié, mis à part pour Dieu. C'est ça, la sanctification, c'est ce que je voulais aussi aborder dans la consécration, mais pas majoritairement. Mais oui, c'est là, parce que c'est interrelié. Hein. Puis, c'est ça. Donc, on le voit dans le passage qu'on a lu. Élisée, il le suit pour être au service du prophète qui servait Dieu. Puis, ultimement, servir Dieu directement en étant son prophète à sa suite, à la suite que lorsque Élie a été enlevé. Puis, nous, on est consacré en tant qu'engagement envers Christ, on est consacré au service de Christ et de Dieu et de son peuple et de proclamer l'Évangile à tous ceux qui ne sont pas croyants. Tu sais, ouais, bon, j'irai pas trop là-dessus, mais c'est que ça va loin. Hein. Mais, ouais. Donc, quelles sont les choses mise à part pour lui dans votre vie. Si on est engagé envers Christ et qu'on est consacré à son service, est-ce que c'est vrai dans notre vie? Est-ce qu'on a laissé cette réalité-là prendre sa place? T'sais, la transformation est progressive aussi, mais le service aussi, bon, on grandit dans le service, puis c'est ce que je voulais amener par consacration. Parce que moi, souvent, l'idée de bridge, c'est de combler les brèches, d'amener une réflexion personnelle et communautaire pour rejoindre les besoins de l'Église, pour rejoindre là où il y a le bobo, là où il y a les problématiques dans notre vie. Puis, je crois personnellement qu'on met des choses à part pour bien d'autres choses que Dieu.
Est-ce que tu as vu le film qui s'appelle Faire le pouf?
Oui, oui.
OK. Fait que le pompier, là, oui. Quand il s'est converti au Seigneur, il n'a jamais prêché un anse à son épouse.
Un quoi?
Il n'a jamais prêché un anse à son épouse. Et sa femme, tant qu'elle a compris comment son mari s'était comporté comme un enfant de Dieu,
oui.
Elle a dit, en dedans de tout, elle a fait des déclarations d'amour extraordinaires. Puis en dernier, elle a dit, ce que tu veux, je le veux, je ne l'ai pas. Autrement dit, la relation que tu as avec, qui t'a changé à ce point-là, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, mais je le veux. Voilà l'évangélisation qui a la puissance. Comment dire? Il n'a pas sorti sa Bible, un os, pour commencer à y prêcher verset par verset. La puissance de Dieu était sur lui, dans son engagement, dans son amour pour sa femme. Ce qui l'a amené à désirer de tout son cœur ce que lui avait. Puis ce qu'il avait, c'était l'évangile en puissance dans son cœur. C'est ça qui a amené sa femme à se consacrer et à se remarier. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment le genre d'évangélisation que Dieu veut. Il veut qu'on ait une relation, une consécration tellement puissante que les gens autour de nous autres, ils vont voir le goût, ils ne comprendront pas ce qui arrive, ils vont voir l'intention, ils vont voir le... Ils vont nous garrocher des fleurs comme de quoi qu'on est des êtres extraordinaires. On sait très bien qu'on n'est pas des êtres extraordinaires.
Amen. Okay. Ben, pour
Et
Dieu,
si
on
ce
est...
Ce qui est extraordinaire, c'est la présence de Dieu dans nos vies.
Oui, c'est ça.
Fait que là, le temps qu'on dit « je ne donnerai pas ma gloire à un homme », ben c'est de ça qui arrive. Les gens, tant que Dieu nous révèle de sa puissance, les gens nous encensent une gloire qui ne nous appartient pas. Puis là, c'est important de vivre la consécration que tu parles. Puis de dire « Seigneur, c'est comme un baromètre qui m'indique que ma relation avec toi est bonne. » Comprends-tu? Puis aussi de voir les gens se convertir, venir à lui, à cause que la parole est rendue vivante dans notre marche avec lui, dans notre obéissance.
Oui, c'est ça. Donc, ça revient à l'idée que la consécration mène à l'action, mène à quelque chose de visible, de concret, qui déplace des choses aussi dans le monde spirituel. C'est ça, qui correspond à ce que Christ avait en tête quand il pensait à ses enfants. Puis à son service, c'est ça, dans leur plein potentiel, dans leur plein épanouissement. Comment il prend plaisir à la voix de l'homme, là. Mais j'aime bien ce passage-là. Puis, parce que des fois, je me dis, « Mais Seigneur, si tu... » Ben, tu le vois, là, mais... quand je contemple des fois mon cheminement, mes actions, je me dis, « Ouais, c'est pas fort, tu sais, c'est pas extraordinaire. » Tu sais, nos fautes, nos manquements. Mais Dieu prend plaisir quand même à nous voir. Il prend plaisir en ses enfants, en sa création. Il se soucie de nous. Et il désire que notre consécration soit totale. Parce que, c'est ça, quand on se consacre complètement à lui, toutes les facettes de notre être vont être influencées par sa présence. Puis je crois que c'est ça qui manque beaucoup dans l'Église présentement au Québec. Bon, je ne suis pas en train de juger une église particulière, mais si je regarde ma vie moi-même, c'est un de mes désirs depuis quelques mois, avec le projet The Bridge, de trouver qu'est-ce que moi, je dois changer, qu'est-ce que moi, je dois mettre à part pour Christ, puis qu'est-ce que ça veut dire pour le reste après. Parce que si j'essaie d'amener quelque chose à l'église, ou mon prochain, que je ne suis même pas capable de mettre en pratique, que je suis même pas, que je suis même pas, ben je crois que c'est l'hypocrisie, puis que je suis égaré dans mon raisonnement. Parce que, il faut comprendre, là, c'est parce que je prends l'exemple des pharisiens qui imposaient plein de choses aux autres, mais qui ne faisaient rien de leur côté.
Mais c'est de l'action humaine politique. Ce que les pharisiens faisaient, ils étaient avec la parole, puis ils reprenaient le maître en disant, « C'est écrit que tu ne devrais pas permettre que telle chose se fasse. » Puis là, à quelque part, c'est de la politique humaine.
Mmh.
Mais quand le Seigneur se saisit de toi, c'est une autre histoire qui se passe. Tu l'as dit, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout à travers toi. Puis, c'est ça qui fait la différence. Puis, peu importe l'imperfection, je pense à Pierre. Pierre, tant qu'il est sorti dans la chaloupe, là, la seule affaire que les êtres humains ont regardé, là, c'est qu'il a coulé à pic. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est le seul dans la gang qu'il y avait là qui a dit au Seigneur, « Permets que je vienne à toi. » Dieu, Jésus, il a aimé Pierre pour ça. C'était un homme impassionné, un enflammé, un énervé, mais c'était un homme de foi qui croyait en Jésus. Même s'il s'est cassé la gueule par ses impulsions, puis il a taillé l'oreille du serviteur, puis le Seigneur lui a dit, « Même, arrière de moi, Satan, a dit ça à Pierre. » Mettons que ce n'est pas le meilleur des compliments à recevoir de celui que tu aimes, puis pour qui t'a donné ta vie, arrière de moi, Satan, il me semble que ce n'est pas le compliment que tu vas te recevoir de Jésus. Pourtant, il dit « Paix mes brebis ». Hein? C'est intense, hein? Il a dit à Pierre, « Pierre, il a demandé trois fois à Pierre. Pourquoi il a demandé trois fois? Il n'y en a pas un qui l'a renié autant que lui, à part Judas, comment ça? Pierre, il devait se sentir comme insignifiant, incapable. Il devait se sentir mal à l'aise ou cheap, hein? Il devait se sentir cheap.
Ah oh oui.
Quand il a reçu, c'est... Puis à trois fois, il a demandé. Il dit, Seigneur, tu sais, il devait avoir la tête entre les deux jambes, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Finalement, il l'a établi comme chef de l'Église. Mais, en tout cas, toute une histoire autour de ça. Mais c'est pour moi démontrer que le Seigneur, il prend des aides de n'importe quelle tendance, puis il les aime parce qu'il les a choisis, c'est tout. Il t'aime parce qu'il t'a choisi, non pas en fonction de tes qualités, tes talents, de tout ce que tu peux faire. Il t'a choisi. Puis il va t'utiliser dans la mesure où ce que tu te rends disponible et tu fais plier ta volonté à la sienne.
Oui.
C'est ça.
Puis, tu sais, pour donner des exemples de consécration que moi, je trouvais dans la Bible, je trouvais intéressant de prendre Christ comme exemple. Oui, puis je pensais, oh, wow, Christ aussi a commencé, s'est engagé et s'est consacré à Dieu pour le service. Puis là, on voit que c'était pas parce qu'il avait péché, tu sais, c'est le seul qui pouvait dire ça. Puis on le voit dans le baptême de Jésus, ou le début de son ministère officiel sur terre, dans Luc, chapitre 3. Si on va voir le verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ouais. On parlait d'affection tantôt. Bien, Dieu, le Père, le démontre de façon incroyable au niveau du baptême de Jésus-Christ. Puis je crois que le Saint-Esprit vient aussi sur nous lorsqu'on est converti au Seigneur réellement. Et Dieu pourrait très bien dire la même chose par son Fils.
Il a dit, j'ai mis en toi toute mon affection.
Oui, c'est ça.
Au point que je suis mort pour toi, la croix.
Ouais.
Je suis mort pour Gérard, je suis mort pour Jérémie.
C'est ça.
C'est inimaginable, c'est comme tu dis, de ces deux mesures.
Puis ouais. Après, on voit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Là, il y a sa généalogie. Mais dans Marc, si on tourne, on va voir un passage que moi, j'aime beaucoup par rapport à la consécration. C'est, si c'est bien dans Marc, chapitre 1, verset 9. « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, comme on vient de le voir. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Puis pour moi, le temps que Jésus passe dans le désert est spécial parce qu'on le voit que le Saint-Esprit le met à part dans un lieu désert pour la préparation de son ministère. Puis Jean-Baptiste a vécu un peu la même chose, mais de façon plus longue, disons. Il habitait carrément dans le désert une grande partie de sa vie. Il prêchait là, dans le désert. Puis je trouvais ça spécial. Comme Samuel, qui a été consacré à l'Éternel par sa mère. Puis ça, ça symbolisait qu'il allait habiter avec le sacrificateur Élie, je crois. Et puis ça, c'est ce que je trouve qui est bien avec l'exemple de Samuel, c'est que la consécration parle de toute notre vie. C'est ça les points que je voulais amener. Comme l'engagement, la consécration est totale. Puis pour finir, porteur de vision. Ça, c'est un gros sujet. Ouais, j'aurais peut-être dû le préparer mieux, disons. J'aurais peut-être, mais peu importe. J'ai un très bon exemple avec The Breach. Quand on a essayé de commencer The Breach, on voulait amener une vision. C'est simple. Puis, comment une nouvelle se propage? Ça se propage de façon différente et partielle dans certains cas, puis totale dans d'autres. Mais c'est ça, on fait face dans le monde à une grande difficulté de communication. Dieu veut nous parler, mais il y a tellement de choses autour de nous qui nous distraient qu'on n'écoute pas. Jésus n'arrêtait pas de dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Puis dans ouais.
C'est trompé.
Ouais, non, c'est ça. Bienvenue. Puis c'est ça, que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est Nathanaël qui arrive. Yes. La nouvelle est connue de tous. Et c'est ça. Ben c'est ça, c'est que moi je vais revenir à ce que j'essayais de dire, c'était par rapport à porter une vision. Quand on veut porter une vision, pourquoi je l'ai mis en troisième? Puis pourquoi avec l'engagement et la consécration? Je pense qu'on a un peu dit sans le préciser, mais c'est la vision de qui qu'on porte?
La vision de Jésus.
Oui, c'est spécial, mais c'est simple. Tu sais, comme Simon me disait tantôt, on pourrait tout le temps répondre la réponse Jésus. Tu sais? C'est souvent vrai. Souvent vrai quand on parle de la Bible. Puis, mais c'est ça. Dans le fond, la vision nous vient de Christ lui-même. Puis des fois, je me pose une question. Tu sais, j'ai réfléchi beaucoup parce que j'ai été en charge de ministère et de choses. Puis il vient toujours le moment où tu essaies d'expliquer ce que tu fais. Puis tu essaies de l'écrire aussi. Ce qu'on appelle souvent la vision. Tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'ai un peu de misère. Parce que, est-ce qu'il y a une autre vision que celle de Christ qu'on devrait apporter dans le monde? Puis je crois personnellement qu'en tant que chrétien, il n'y en a pas d'autre. Donc on part tous du même point. Puis je crois que c'est un des points d'unité que The Breach essaie d'amener comme réalité, c'est que notre vision vient de Dieu. Puis elle vient de sa parole. Donc, on peut inventer toutes sortes de ministères, toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'événements, mais la vision de Christ ne changera jamais. Puis je pense que c'est important parce que je crois que parfois, en essayant de définir notre ministère, en essayant de définir notre vision, on perd carrément celle de Christ. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est très grave. Parce qu'on perd la raison même de notre engagement, de notre consécration, de notre vie entière maintenant en Christ. Donc, si on partait de la vision de Christ, je crois sincèrement qu'il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient évités dans l'Église. Bon, c'est une grande parole sans ben d'explication. Mais maintenant, comment être un porteur de cette vision-là? Bien, premièrement, je pense qu'il faut le vivre. On le parlait tantôt, c'est pour ça que je disais, on en a parlé. La consécration en action, la consécration, l'engagement réel, la foi vivante et celle qui porte des actions, qui amène des changements dans la vie, notre vie et la vie de ceux qui nous entourent. Ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont riches, ceux qui sont malades, ceux qui sont malheureux. Dieu est venu pour racheter tous les hommes. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va répondre. Mais nous, on doit vivre cette vision-là pour pouvoir la porter. Donc, comment on porte une vision? C'est en la vivant. C'est aussi simple que ça. Puis maintenant, bon, c'est bien d'être un porteur de bonnes nouvelles, hein, un évangéliste, mais un évangéliste aussi, il faut que son message soit clair. Puis c'est là que je crois que tout le processus de définir notre vision dans notre ministère est important, parce que oui, il faut pouvoir être capable de dire clairement aux gens, selon qui qu'on rencontre, quelle est notre vision, quel est notre but. Quel est notre objectif? Tantôt, en m'en venant dans l'autobus, moi, je vais faire des petites parenthèses là pour expliquer certaines choses. Quand je m'en vais à un événement, que ce soit l'Église ou tout ce qui est en lien avec Christ et se rassembler en son nom, je tombe en mode consacré. Ouais, j'aime un mode... actif, réveillé. Puis ça, je trouve ça un peu drôle, parce que normalement, on devrait l'être constamment. Mais la réalité, c'est que je suis conscient réellement de mon engagement lorsque je m'en vais me rassembler avec d'autres croyants, lorsque je m'en vais faire quelque chose pour Christ. Puis c'est là, alors que moi, je suis en attitude de prière, pas juste une prière d'un temps, des paroles dites à Dieu, mais une action... Tout mon être s'en va vers Christ et sa mission. Il commence à se passer des choses. Et Dieu commence à agir de façon tellement plus claire. Tout autour de moi devient sensé. Je deviens utile. Parce que je consacre ce temps-là à Christ. J'ai arrêté de vivre pour moi pour consacrer mon temps à Christ. Je crois qu'on peut sauter dans cette dimension-là n'importe quand, puis dans toute notre vie entière. Mais j'explique ça parce que c'est ça. Je vois des choses se passer quand je m'engage envers Christ. Je me consacre pour une œuvre particulière. Puis je m'en allais dans l'autobus, puis là, j'ai rencontré deux chrétiennes. Deux chrétiennes qui avaient déjà entendu parler de l'événement ici. Ouais. Ça fait que là, ce que j'ai fait, je me suis levé de ma place et je prenais deux sièges de l'autobus. Puis là, j'ai eu à cœur de me lever. Moi, c'est simple, là. J'ai à cœur de faire des choses, puis pour d'autres, c'est banal et ça n'a aucun sens ce que je veux dire, mais pour moi, c'est très spécial. Donc, j'ai eu à cœur, à ce moment précis-là, de me lever, de prendre mon sac, ma guitare, puis mon autre sac. J'étais vraiment équipé là aujourd'hui. Puis je me suis levé à ce moment précis-là. Puis là, je m'en allais vers la sortie. Puis les deux personnes que j'ai parlé, que j'ai rencontrées, se sont assises à ma place exactement. Et ont pris ces deux places-là que je prenais. Fait que là, j'ai remarqué, ah, je les connais. Fait que là, je les ai abordées. Puis en les abordant, je leur ai parlé de l'événement ici. Puis quand ils m'ont parlé de ce qu'ils avaient reçu, de c'était quoi qu'on faisait ici, il y avait un grand flou, tu sais, parce qu'on ne leur avait pas dit grand-chose. Puis moi-même, j'ai eu de la misère à le dire. Parce que j'ai dit, en gros, là, je vais vous dire un peu ce que j'ai dit. J'ai dit que dans le fond, on se réunissait pour faire un peu tout ce que les chrétiens étaient appelés à faire. C'est à peu près la définition que j'ai donnée. Puis là, je parlais assez fort pour que tout le monde entende. Moi, j'aime faire ça dans les autobus, juste pour amener des questionnements et une interrogation chez les gens. Puis j'ai dit, je disais ça. Puis là, je dis, mais c'est impossible, tu sais. On sait que c'est impossible. C'est impossible de faire tout ce que Dieu demande. Mais on se rassemble pour faire ça, pour voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse ensemble aujourd'hui. Puis pour moi, c'est fou comme définition, mais je trouve que c'est la plus vraie. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir une tempête. J'avais écrit à Alex que ça devait, c'était censé être mon père, finalement, qui apportait l'enseignement ou le partage. Puis j'avais marqué après, si rien ne change d'ici là. Parce que j'aime laisser, même dans mes paroles ou mes textes, la possibilité claire à Dieu d'intervenir pour changer mes plans. Parce que je crois que souvent, je me trompe et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer d'avance. Puis je crois que c'est rendre gloire à Dieu de lui laisser cette place-là dans notre vie. Lui laisser le contrôle. Hein? Oui, c'est, puis c'est exactement ça qui s'est passé aujourd'hui.
Je dois te sentir moins bizarre là, maintenant. Tantôt, tu disais que je me sens
cool. Cheap.
Oui, cheap. Parce qu'on a eu un...
moins cheap parce que tu étais enrichi d'autres choses que toi-même.
Ouais. Oui, c'est ça. Ben, quand on lit, fait juste lire la Bible, wow! Quand on fait juste adorer, wow! Tu sais, c'est en masse, là. OK, on s'en va, on est plein. Là.
L'inspiration revient. Hein?
Oui. Fait que c'est ça. Ça, c'est une des histoires que je voulais conter. Puis l'autre, qui donne des exemples plus concrets, je dirais, de ce que moi, je veux dire dans la consécration. Quand je suis arrivé ici, mon but, c'était d'arriver à 2h30. Puis les conditions météo n'étaient pas extraordinaires. Avec l'autobus, en plus, tu ne sais jamais quand tu vas arriver. Tu sais que tu vas sûrement arriver, mais pas quand. Puis, puis je suis arrivé à E29 devant la porte. Wow. Là, j'étais comme, wow, cool! Tu sais, j'ai respecté ma parole, comme quoi j'allais être là. Tu sais, pour moi, des fois, ça va jusque-là. Ben, faut pas être extrémiste, là. Mais j'aime ça être à l'heure, surtout quand je l'ai dit à des gens. Puis là, ouais, je débarre la porte, j'installe mes choses, puis je m'assis pour prier. Alors que je m'assois pour prier, il y a quelqu'un qui ouvre la porte d'en avant. Parce que moi, je m'étais dit, quand on fait l'événement, pour moi, une église, ça a des portes ouvertes. C'est ça. On est censé accueillir les gens pour rencontrer Dieu. Puis c'est quelque chose de banal, de simple, mais pour moi, depuis qu'on fait The Breach, je débarre la porte. Les deux portes. Le temps, puis je surveille, là, pour m'assurer que tout se passe bien, mais puis à presque chaque fois, il y a quelqu'un qui n'avait aucune idée qu'il y avait un événement ici, qui voulait juste visiter, qui visite. Puis c'est arrivé deux fois aujourd'hui. Quand je me suis assis, je venais juste de débarrer la porte, je m'en vais pour prier, puis bang, quelqu'un ouvre la porte. Il n'a même pas cogné, hein? Tu sais, on dit dans la Bible, frappez, on vous ouvrira, mais là, c'était débarré, donc il y avait une étape encore de moins. Puis... ouais, ils sont entrés, puis ils ne savaient pas trop. Une personne du Brésil, puis une autre du Québec. Puis ils voulaient visiter. Puis j'ai pu leur présenter en anglais là, l'église. Ouais. Donc, il suffisait que je n'ai pas suivi mon engagement, disons, de laisser les portes ouvertes pour empêcher cette personne-là d'entrer. C'est pas, tu sais, disons qu'il n'y a pas eu un réveil dans la ville de Québec à cause de ça. Mais pour moi, c'est dans des petites choses comme ça qu'on peut faire une différence dans la vie de beaucoup de gens. Dont ces deux couples qui ont visité l'église aujourd'hui. Puis le deuxième, c'était bien, là, Simon était là, puis on parlait de bénir les gens. Puis ça, c'est une autre chose que j'aime faire quand on partage. C'est de le mettre en action le plus vite possible. Puis on venait de parler de bénir les gens, puis là, il était pour quitter, il était bien content. Mais j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit, attendez, je vais vous bénir, je pourrais vous bénir. Puis tu sais, je sais que les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi bénir les gens. Tu sais, c'est un moyen d'entrer en communication. Puis ils sont dans une église, donc c'est l'endroit où se faire bénir. Puis j'ai insisté. Il avait l'air content, ouais. Puis là, j'ai commencé à prier. Prier et les bénir. Mais vraiment, j'aime ça, faire ça, parce que c'est tellement bénissant pour nous aussi de proclamer des choses sur la vie des gens. Simplement intercéder auprès du Père pour qu'il se déverse sur eux de façon puissante, qu'ils puissent expérimenter une vie nouvelle et une nouvelle vocation. Puis, quand le monsieur est parti, il m'a dit, ouais, merci, je me sens vraiment mieux maintenant. Wow. Puis c'est ça pourquoi j'avais prié. Puis j'étais béni. Puis c'est ça. Ça, c'est mettre en action la parole aussi rapidement que possible. Ça assure une certaine cohérence de nos enseignements.
Puis aussi, bien des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, si tu leur offres de prier pour eux autres, c'est très rare pour nos enfants. Surtout dans un contexte comme c'est arrivé. Ils viennent visiter une église, puis tu donnes du temps, puis tu leur offres de prier pour eux autres.